Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Aujourd'hui, on va parler du film Marche ou crève, oui. C'est sur le handicap.
Ah oui, on reçoit l'acteur Cédric Kahn, ouais. Qui souvent des films engagés.
Ah super, on aime bien les gens comme ça,
ouais. Et puis ouais. C'est intéressant parce qu'il a commencé comme assistant sur un piala,
ah, oui.
Puis il a été réalisateur, oui. 10 films, hein, et maintenant acteur, c'est assez rare.
Ouais, c'est compliqué, ouais. Surtout, c'est pas le premier réel venu qui peut faire ça.
Ah, non, on a qu'à essayer.
Comment ça, essayer?
Ah mais oui. Anne-Sophie, tu viens un peu, s'il te plaît?
Mais enfin, les réalisatrices radio, Anne-Sophie, t'es dingue.
Arrête avec ce qui court, Anne-Sophie, ça fait 5 ans maintenant.
Bon, Anso, dans la radio du Nouveau Monde. Ouais. Il faut avoir une vision 360 degrés.
Ah oui,
hein, d'accord. Donc si on te proposait un rôle là tout de suite. Dans la conférence de rédac, tu dirais quoi?
Que c'est pas mon métier.
Mais oui, mais non, mais Guillaume et Charlie non plus, c'est pas leur métier. Pourtant, ils se démerdent.
Alors vas-y, attends, dis-moi bonjour, fais comme si t'arrivais dans le bureau par exemple, vas-y.
Kikou les amis.
Arrête avec ce kikou, il a dit de dire bonjour.
Bonjour.
Bonjour les amis.
Ouais, enfin un peu plus enthousiaste. Ouais.
Bonjour les amis.
Non, alors ça c'est pas enthousiaste, c'est plus fort.
Ouais. Ok, je recommence.
Ah, attendez, parce que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça en fait.
Peut-être rester sur une vision à 180, si c'est déjà pas mal, je pense.
Ah bon, parce que moi je croyais que j'étais prête là.
Ah.
La colère. Salut les amis.
Oula.
La tristesse. Salut les amis.
Ouh là là, oui mais
la peur.
Non, mais...
Salut les amis.
Merci. Vraiment super, merci Anso, je crois qu'on a compris.
Ah ben attends, mais on t'appelle en régie là, je crois. Oui.
Ah Kikou Céline.
Arrête avec ce Kikou.
Kikou la France Inter.
Arrête avec ce Kikou.
Et bienvenue dans la Tartup, cet espace où la crème de l'actualité est fouettée par la blague. Où est la trêve? Où est l'union après l'attaque de Strasbourg? La trêve a-t-elle été étouffée dans l'œuf par le complot, la polémique et au milieu, heureusement, un peu de dignité et même l'innocence enfantine qui fait tant de bien?
Ils ont tout pigé.
Télématernelle, vous vous rendez compte? Le mouvement populaire actuel est-il méfiant devant les intellectuels? Les gilets jaunes ne se tournent vers aucun d'entre eux, d'autant que s'ils sont présents dans les pages idées du journal Le Monde, ces intellectuels, on ne les voit jamais sur les chaînes de télé en continu les plus populaires comme BFM.
Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée,
Ouais. Pourquoi certains réalisateurs font-ils appel à des comédiens non professionnels? La question a refait surface avec la diffusion récemment à la télévision de Dipane, le film de Jacques Audiard qui repose sur deux novices.
Alors les amateurs, on est venu voir travailler les professionnels?
Oui, ça va.
On est venu voir travailler Alex Vizorek.
Eh bien sûr. Salut les branquignoles, j'ai une belle équipe à vous proposer malgré tout. À 17h20, celui qui est plus brillant qu'il n'en a l'air, et vous me direz, c'est pas bien compliqué, c'est Thomas Croisière, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Eh bien, je vais parler du film de notre invité.
Quelle responsabilité.
C'est beau.
À 17h30, celui qui un jour a fait exploser un détecteur de mensonges en lui posant lui-même des questions, c'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous. Ben, on va revenir sur l'attentat de Strasbourg, diverses réactions du peuple de France, notamment sur les fichiers S, réactions mesurées, bien sûr.
À la résistance, qu'est-ce qu'on en faisait? On les fusillait.
Eh oui, la Gestapo. Était fiché, je le rappelle quand même.
Et enfin, à 17h40, celle qui me considère comme une quatrième de couverture, puisqu'elle me regarde à peine et estime que je ne fais pas partie du livre de sa vie, c'est Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir.
De quoi on va parler?
De la plantade.
Voilà.
Et voici celui qui va occuper pacifiquement l'open space, Occupy espace ouvert, on peut dire. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Cédric Kahn.
Oui, c'est lui. C'est lui, évidemment.
Est-ce qu'on peut vérifier quand même?
Si. Oui, c'est lui.
Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue, Cédric Kahn.
Bonjour.
Bonjour. On peut vous voir au cinéma, actuellement, dans un film de Margot Bonhomme qui s'intitule « Marche ou crève ». Le spectateur vit cette histoire à travers le point de vue d'Elisa. Elle a 18 ans à peu près, en tout cas elle s'apprête à se lancer dans la vie en général, dans peut-être les études. Mais sa sœur Manon est handicapée, assez lourdement à la fois physique et mentale. Et comme elle arrive aussi à l'âge... où il faut décider de sa prise en charge à Manon, la cellule familiale est en plein bouleversement. Vous jouez le père Cédric Kahn de cette cellule familiale qui est un carrefour. Votre personnage à vous, comment réagit-il et comment réagissent les différents personnages de cette petite cellule familiale qui vit avec Manon ?
Mon personnage, il bouge pas en fait. Il voudrait que les choses soient immuables. C'est-à-dire que l'enfant handicapé, qui n'est plus une enfant, approche les 20 ans et se pose la question du placement pour la famille. Et c'est une question terrible. Le père, lui, est convaincu que personne ne s'occupera mieux de cet enfant que lui. La mère s'en va, elle fait un espèce de coup de force pour le forcer à changer d'avis, alors qu'on comprend qu'elle a beaucoup porté l'enfant depuis sa naissance.
Elle réagit par la fuite, mais peut-être une fuite qui essaie de déclencher quelque chose.
Ouais, une fuite en forme d'ultimatum, et donc la jeune fille, la sœur normale, qui est jouée par Diane Rouxel, est prise en otage de cette situation, et la particularité du film, c'est de nous faire entrer dans l'intimité d'une famille comme ça. Ouais. Ces familles, on les voit en fait, on les côtoie, elles sont à côté de nous, mais là on plonge vraiment au cœur de cette problématique et on voit que c'est une famille qui finalement souffre d'enclavement en fait. Il y a une forme d'isolement. Il y a aussi des choses très joyeuses hein, d'ailleurs. Il y a comme une sorte de dépendance à cette dépendance. Enfin voilà, c'est très fort.
À un moment, Elisa dit à son petit ami, elle voudrait le présenter Manon et elle lui dit on se marre bien, tu sais. Mmh. Et c'est vrai que Manon, elle a cette capacité à partir dans le rire.
Ouais, c'est un enfant en fait. Enfin moi par exemple le rôle c'était beaucoup de choses physiques en fait, il fallait physiquement que je m'occupe de cet enfant avec une taille d'adulte, mais c'était comme un enfant d'un an en fait. Ouais. Elle parle pas, elle a pas la parole, donc on doit comprendre les choses de façon très sensorielle.
Thomas Croisière.
Et puis vous êtes dans une forme de déni puisque vous allez même jusqu'à prétendre que vous êtes immortel. Ouais, alors que la vérité est tout autre.
Ouais, c'est marrant parce que c'est une improvisation et évidemment cette phrase est dite sur le ton de la plaisanterie face à l'inquiétude de ma fille qui dit et après. Enfin, c'est-à-dire qu'un jour quand tu pourras plus, que c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Ça, c'est vraiment. C'est ça qui est beau dans le film d'ailleurs, c'est le point de vue de la sœur, c'est dans la fratrie en fait. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a une grande inquiétude aussi de voir les parents perdre leur toute puissance. Et donc mon personnage dit en rigolant, t'inquiète pas, je suis immortel, mais évidemment ouais, c'est une plaisanterie. Ouais.
C'est l'histoire de la réalisatrice Margot Bonhomme et de sa sœur. Donc quel impact ça a sur le film? Parce que ça donne déjà une forme de sincérité
En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous a convaincus, c'est-à-dire qu'on a compris que c'était pour elle très très important de raconter cette histoire-là. Moi, j'ai rencontré son père, sa sœur, enfin voilà, elle nous a vraiment fait plonger dans son intimité, et elle portait cette histoire. Elle était très exigeante sur la façon dont on jouait, on relatait cette histoire-là, il fallait que tout soit très très précis, les gestes, elle nous reprenait sur chaque geste.
Il y a un souci de réalisme.
Et énorme, ouais, c'est-à-dire que voilà, il y a une part documentaire dans le film. Hein. On peut vraiment, il y a l'autre comédienne qui est Jeanne Coendi, qui joue une handicapée, qui est une comédienne, qui est une fille qui a la parole et la démarche et la marche. Elle a dû jouer ce rôle-là et c'est une performance extraordinaire. Ouais.
J'allais vous parler de cette performance incroyable. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? Elle a travaillé un an et demi, je pense. Et quand on voit cette comédienne à l'écran, Jeanne Coendi. C'est d'un réalisme dingue de jouer comme ça.
Ouais, là, vraiment,
vous qui êtes acteur et réalisateur, quel œil vous avez là-dessus?
Acteur prend tout son sens, c'est marrant parce que vous vouliez parler des amateurs, mais là vraiment c'est de l'actorat au sens pur du terme, c'est-à-dire qu'elle s'est entraînée, elle a regardé, Margot, la réalisatrice, l'a énormément aidée, et nous, Diane Rouxel et moi, on s'est beaucoup appuyé sur elle en fait. C'est-à-dire qu'on savait jamais ce qu'elle allait faire dans les scènes. On savait jamais si elle allait crier, être détendue, très nerveuse et tout ça. Et donc on devait sans arrêt adapter notre jeu à ses réactions.
Est-ce qu'il a été question à un moment de travailler avec une actrice handicapée ou pas du tout?
Je crois. Alors moi, quand je suis arrivé sur le projet, Jeanne était déjà là et s'entraînait déjà. Mais je crois que la question s'est posée. Et après, ça pose des questions techniques aussi. C'est-à-dire que maintenir un handicapé pendant 8 heures sur un tournage, je sais même pas si c'est légalement possible. Mmh. Donc ça aurait conditionné peut-être un tournage de 3 heures par jour. Enfin voilà, donc avec un étalement du temps de tournage.
La réalisatrice explique dans certaines interviews qu'elle y avait pensé, mais que ça nécessitait une adaptation aussi du scénario, qui demandait vraiment de revenir sur des années de travail.
Oui, le film aurait été encore plus documentaire, c'est-à-dire qu'il aurait sûrement gagné en réalisme, mais je crois que l'option d'avoir fait jouer ça par une actrice...
La performance de Jeanne Coendi est tellement bluffante que
Mais vraiment, moi je le dis et je le redis, ça n'enlève rien à sa sœur dans le film. Et nous, vraiment, on était en direct, on était vraiment très impressionnés.
Mais justement, vous êtes la performance est saluée collectivement, puisque le prix des meilleurs comédiens du Festival de Saint-Jean-de-Luz a été attribué aux deux sœurs. C'est-à-dire que les deux se soutiennent, et c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est un travail vraiment en commun. Et c'est ça qui est fort, et on le sent d'ailleurs, cette famille existe. artistes?
Bah, il y avait une interaction permanente, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes écrites, mais l'improvisation prenait tout le temps le dessus, parce que c'était une situation très particulière à jouer.
Ça s'appelle Marche ou crève, film de Margot Bonhomme, qui est en salle depuis la semaine dernière, qu'on vous conseille donc d'aller voir, même si on doit vous dire, les gens ont besoin de se distraire, les films de Noël, tout ça...
Oui, mais l'émotion est une distraction, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une distraction facile, mais j'ai l'impression que ce film nous offre la possibilité de rentrer dans un univers qu'on connaît mal.
Et puis c'est aussi le parcours d'une jeune fille de 17 ans qui est sa sœur, qui a les hormones qui fleurissent et qui est tout en joie.
Et pour compléter, les deux jeunes comédiennes sont présélectionnées aux Espoirs de César.
Voilà toute cette série d'arguments pour aller vous faire aller en salle voir Marche ou crève de Margot Bonhomme. Et c'est Cédric Kahn qui nous accompagne. Vous écoutez Radio France Inter Nostalgie. Restez avec nous. Baby come back. Pour les jeunes qui nous écoutent, notez bien, vous êtes sur France Inter, par Jupiter. C'est Cédric Kahn qui vient nous rendre visite, le réalisateur et acteur. Là, il est acteur dans Marche ou crève de Margot Bonhomme qui est en salle actuellement. Et pour l'entourer, Alex?
Eh ben, il a la chance de voir son film expliqué par Thomas Croisière dans quelques instants.
C'est une chance.
Et puis Guillaume Meurice ira interroger la France et Clara Dupont-Meunot nous parlera littérature.
Le flash d'information.
Il est prêt.
À quand a-t-on augmenté le SMIC d'un niveau de 100 euros?
Le journal de presque 17h17.
Moi, je veux que l'ouvrier aujourd'hui qu'il puisse au moins acheter le SMOC avec le SMIC.
On commence par les titres.
Le gouvernement appelle à ne pas manifester samedi suite à l'attentat de Strasbourg.
Oui, en même temps, ça fait déjà 5 semaines que le gouvernement appelait à ne pas manifester samedi.
Selon un sondage à paraître demain dans TV Magazine, Michel Cymès est en tête des animateurs télé préférés des Français, alors que Cyril Hanouna est bon dernier.
Et ouais, c'est rassurant de se dire que les Français préfèrent les médecins aux grands malades.
Et des brèves.
Oui, selon un sondage, mes brèves sont en tête des brèves préférées des Français.
Si. Non, après, on n'a pas les mêmes chiffres
sur ma famille, mais on commence par souhaiter
un joyeux anniversaire à Ramayad.
Toujours chouette de rendre un hommage aux disparus.
Oui, voilà. Politique. Oui. Pour les européennes, un sondage donne le Rassemblement National en tête, loin devant La République En Marche.
Ça va en
en faire des sièges vides au Parlement européen, ça, la prochaine fois.
Attentat de Strasbourg, à présent, la tour Eiffel a été éteinte hier soir en hommage aux victimes.
Et voilà, une mesure forte. Croyez-moi qu'après ça, les mecs de Daesh vont bien réfléchir avant de relancer une action.
Nice, Christian Estrosi demande à l'État la liste des fichiers S de sa ville.
Oui, c'est pas con, Christian Estrosi, il a longtemps été proche de Sarkozy, il a donc l'habitude de suivre les grands délinquants de près.
Justement, dans un nouveau livre sur la famille Hallyday, on apprend que Johnny sollicitait sans arrêt Nicolas Sarkozy quand il était président, ce qui aurait fini par agacer ce dernier.
Ben oui, mais en même temps, si Johnny déboulait à l'Élysée en sifflotant les portes du pénitencier, on peut comprendre que ça énervait.
Oui, en tout cas, il a eu de la chance, Johnny, parce que c'est pas le seul qui sollicitait régulièrement Sarko.
Et c'est vrai que Kadhafi aussi, et il n'est pas mort de mort naturelle. Hein, pas emmerdé.
Santé toujours.
Oui,
un comité d'experts de l'Agence française du médicament s'est prononcé en faveur de l'usage du cannabis à visée thérapeutique.
Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Hippolyte Girardot pourrait bien prochainement faire chauffer sa carte vitale.
Média.
Oui, j'aime bien quand il n'est pas là. Hier déjà, vous avez vu, les journalistes en ce moment, ils sont très très fatigués. Hier, il y avait une journée, c'est trompé de chaîne. Hier, Anne-Sophie Lapix lance un reportage.
On retrouve à Strasbourg, devant la frontière allemande, Anne-Claire Coudray, Poignard, excusez-moi.
Aïe, t'es un petit peu obsédée par la concurrence.
Ah oui, c'est la présentatrice sur TF1.
Exactement.
C'est ça. People, toujours. Donc, l'actrice américaine Diane Keaton a retrouvé un portefeuille perdu il y a plus de 50 ans grâce à un inconnu.
Et oui, il faut pas désespérer. Un jour, peut-être, on retrouvera les fiches de paix de Pénélope Fillon. C'est possible. C'est possible sur le coup.
Sport, avec la Ligue 1, le match Marseille-Bordeaux prévu dimanche, reporté à son tour.
Chapeau à l'OM. Parce qu'après le match reporté la semaine dernière contre Saint-Etienne, c'est la deuxième semaine sans défaite de l'Olympique de Marseille. Un bilan positif.
La France Inter attend les brèves.
Oui, les brèves. Dans l'Hérault, un McDonald's a été incendié. Voilà, McDonald's, ils viennent de lancer le macramé. Hey, ouais, petit jeu de mots, les enfants aussi écoutent.
On n'est pas déçus par ces brèves.
Une dernière, ça méritait.
Une dernière, un TGV Paris-Nice touché par une munition de chasse. Peut-être que le chasseur a fait une erreur. Il a confondu avec un anaconda. Il s'est dit, va vite, mais c'est un anaconda quand même.
Il est 17h24 sur France Inter à Angers. À Angers, car Cédric Kahn, vous présiderez le jury du festival Premier Plan qui aura lieu du 25 janvier au 3 février. Qu'est-ce que c'est le festival Premier Plan? C'est quoi le festival Premier Plan?
C'est les premiers films, je pense.
Ah, waouh!
C'est bien possible.
Écoutez, j'y suis allé avec mon premier film il y a 25 ans.
Ah, bah oui,
c'est les premiers plans de chaque film.
Il connaît le dossier.
Les premières secondes de chaque film.
Cédric Kahn entre nos compagnies. Alors, dans les 24 heures qui ont suivi l'attaque terroriste à Strasbourg, a-t-on vécu une trêve? C'est-à-dire un moment éphémère, je vous redonne la définition, un moment éphémère d'apaisement du climat, de cordialité, éventuellement de dignité, si c'est pas trop demandé. Bon, alors on a subi les mots complot, polémique fichée S, alors qu'il y a quelques temps encore, il était question d'un vieux truc éphémère qu'on appelait Union Nationale. C'est pourtant pas surhumain, non merde.
Arrêtez, je demande une trêve, il y a un blessé. C'est un piège. Laissez voir si c'est un piège. Vas-y, parle, Braque.
C'est à la Braque que je parle.
Alors fais reculer tes hommes.
Ils bougeront pas, je t'injure.
Bougez pas, vous autres.
Alors, c'est un piège, ça? Ça y est, vous fronde à la con?
Vous fronde, vous fronde, quoi? Je vous fronde à la con, c'est bon? Ah, il a la patte cassée.
Tu vois?
Quoi, on l'a pas fait exprès, hein?
Un extrait de la guerre des boutons. Alors, Cédric Kahn, qu'est-ce que vous retenez de ce lendemain d'attaque terroriste à Strasbourg? Il y a des débats.
C'est pas une émission facile. Hein.
Ouais, on l'a tous.
Plutôt content, plutôt. Comment ça se passe?
Je suis très content.
Vous étiez concentré sur votre question. Non,
ça fait du bien. Parce que...
Nous, on a vu la tête de Cédric Kahn. C'est
bon. On a tous été plombés comme tout le monde.
Vous avez soutenu le djihad à une époque, puis vous êtes un peu revenu sur vos décisions.
Pourquoi? Vous avez raison, Cédric Kahn. Moi, faites une autre question, allez-y. Posez une question.
Non, elle était très bien. C'est parce qu'il avait l'air surpris, on voulait le détendre. Hein, voilà. Si vous n'avez pas
après, il vient pas avec une comédie non plus, donc on peut lui parler.
Cédric Kahn, vous êtes autant acteur, réalisateur que citoyen, que voilà, et vous avez vécu comme nous cet événement à distance. Mais,
à la télé.
Voilà, à la télévision, puis il y a le climat ambiant, etc. Il se passe toujours des choses après un attentat. Quand c'était après Mohamed Merah, il y avait une union nationale qui a duré très longtemps, où tout le monde est très, très apaisé, etc. Et au fil des attentats qui se multiplient, on a l'impression que ce moment de trêve est réduit à peau de chagrin.
Il y a de moins en moins de stupéfaction. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase dangereuse, c'est qu'on commence à s'habituer. Et mais moi je suis étonné qu'on tout à coup on se dise enfin moi depuis le début du mouvement des gilets jaunes, je pense aux attentats en fait. C'est tellement désorganisé, anarchique.
C'est-à-dire que le climat que ça dégage vous fait un peu penser à ça.
Ouais ouais, ça fait au moins 15 jours que je me disais mais si un attentat arrive par-dessus ça, ça va vraiment être le chaos. Et encore l'attentat est bien dissocié de d'une manif là parce que ça a touché le marché de Noël à Strasbourg, mais ça aurait été dans une manif, ça serait vraiment le chaos. Après c'est vrai que c'est compliqué pour le gouvernement d'imposer l'arrêt des manifestations. Il y a déjà une telle défiance de la part des gens qui sont dans la rue.
Et puis il y a des questions qui émergent comme faut-il continuer à manifester ? La question se pose finalement puisque le gouvernement appelle à ne pas manifester, appelle à arrêter le mouvement. Alors heureusement ils n'interdisent pas encore de manifester, mais voilà,
c'est impossible d'interdire. Enfin, on est dans une situation. Mais moi, je suis très étonné qu'il faille un attentat pour se rappeler qu'il y a une menace terroriste en France. C'est ça que je trouve. Je trouve qu'on a la mémoire extrêmement courte.
Et en même temps, ça veut dire que c'est un peu une victoire aussi de certains services, puisque si on arrive, nous, à l'oublier, c'est que les menaces sont déjouées dans notre dos, on s'en aperçoit même pas. C'est comme, vous voyez, c'est aussi une forme de presque de réussite quand même.
Ouais, vous voyez, on peut le voir aussi comme ça, alors qu'on a une capacité d'oubli et à passer sur les événements extrêmement rapides.
Je sais pas si 2015, enfin après je sais pas, mais je sais pas si novembre 2015 notamment, janvier aussi 2015, Charlie, etc. On peut vraiment oublier.
Non, mais choses se diffusent en tout cas dans la mémoire collective. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans la rue, dans les ronds-points. Enfin, il y a ces manifestations quand même qui sont d'un genre nouveau quoi, dans les rues de Paris. Et c'est vrai que personne n'a parlé de la menace attentat depuis que ça a démarré.
Et le réalisateur que vous êtes et l'artiste, est-ce que vous vous sentez un peu influencé par ça ? Est-ce que ça infuse un peu dans, peut-être dans vos projets, dans les choses que vous avez envie de dire à travers l'écran ?
Directement, non. Mais en tout cas, c'est clair que depuis 2001, l'effondrement des tours à New York, les choses ont changé. Il y a des histoires qu'on ne peut plus vraiment raconter comme avant. Voilà. Moi, j'ai senti une bascule sociétale et la fiction, finalement, elle suit cette bascule. En fait, la fiction se réadapte sans arrêt.
Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut plus raconter, par exemple, par rapport à avant ?
Ben, j'ai l'impression que la société c'est quand même extrêmement cloisonné, que par exemple le dernier film de Keshish qui s'appelle Make to My Love, il dit, alors je peux pas parler à sa place, mais il dit qu'il l'a daté en 94 parce qu'il pourrait pas plus le faire aujourd'hui.
Voilà pour ce
sujet. Il y a une forme de censure et d'autocensure en fait aussi.
Il y a du communautarisme que, enfin voilà, les choses se mélangeaient plus facilement. La société s'est fragmentée et on le voit même dans le mouvement des Gilets jaunes que c'est quand même, alors il y a des réunions de courants mais qui finalement n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres.
C'est vrai. Et ensuite toujours divisé, ce titre que j'ai lu dans la presse, la France insoumise, le PS et le PCF peinent à profiter de la faiblesse de Macron, offrant un boulevard à Marine Le Pen. Toujours bien de le rappeler aussi, c'est étonnant. Mais non mais vous voyez, mais il faut se le rappeler peut-être parfois quand même. 17h30 sur France Inter en compagnie de Cédric Kahn qu'on peut voir dans Marche ou crève, le film de Margot Bonhomme qu'a visionné également Thomas Croisière.
Bonjour Charline. Merci de m'offrir le plaisir de rencontrer Cédric Kahn, comédien réalisateur si doué qu'il a de son vivant un festival de cinéma à son nom. Merci Cédric de venir nous présenter Marche ou crève, titre qui résume bien l'époque et traite de la vie d'une famille vivant le handicap au quotidien. Freaks, Le huitième jour, Rain Man, le sujet du handicap au cinéma aurait nécessité un top 50. Cela aurait réjoui les cinéphiles comme les amateurs de Marc Toesca, mais contraint par mon temps de chronique, vous devrez vous contenter d'un top 4 handicap et cinéma. Mon top 4, Andy Cinéma, numéro 4.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Forrest Gump, du mésestimé Robert Zemeckis, raconte l'histoire des États-Unis des années 50 aux années 80 à travers le regard d'un simple d'esprit. Le film a gagné 6 Oscars et pourtant, il ne répond pas à cette question essentielle. Pourquoi continue-t-on de mettre dans les assortiments de chocolat les noirs fourrés avec l'alcool pas bon et ceux avec des trucs blancs qu'on sait pas trop ce que c'est et qui restent collés entre les dents? On les renifle un peu et puis on croque quand même dedans et c'est vraiment pas bon. Alors on les recrache et on se dit qu'on recommencera plus et à chaque fois on recommence, prouvant ainsi que Forrest Gump n'est pas le plus con de nous deux. Numéro 3.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne.
Décidément, chocolat et handicap font bon ménage. Intouchable, film que je ne vous résume pas, car avec 20 millions de spectateurs, forcément, même des auditeurs de France Inter sont allés le voir. Et pourtant, c'est une comédie, et pourtant, il y a Omar Sy dedans. Sa thématique universelle, tu préfères être riche et paraplégique ou pauvre et noir, perso j'hésite, a permis au film d'être le plus gros succès non anglophone du box-office mondial, dépassant avec près de 300 millions de dollars de recettes Le Voyage de Chihiro du réalisateur nippon ni mauvais Miyazaki. Pas étonnant que l'on ait ensuite vu fleurir pléthore de comédies françaises autour du handicap, La Famille Bélier, Tout le monde debout, Chacun pour tous ou l'ensemble de la filmographie de Kev Adams. Numéro 2. Cette personne prend manifestement beaucoup de plaisir à manger du chocolat. Numéro 2, donc l'ensemble de la filmographie de Rocco Siffredi, car c'est atrocement handicapant de vivre avec un pénis de 26 cm. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Numéro 1.
Papa, tu peux m'aider s'il te plaît?
Non, on laisse partir Ellie.
À ce soir.
Ouais, salut, à ce soir. Ça va la princesse, on ne te dérange pas trop?
Mais non, tu vois, je m'occupe de ma soeur handicapée.
Marche ou crève de Margot, bonhomme, met en scène deux bonnes femmes. Elisa, jeune adulte bouillonnante, et Manon, sa sœur polyhandicapée, dont le champ lexical rappelle celui de Chewbacca dans Star Wars. Et autant sur un trajet Tatooine, Endor, ça va, autant tous les jours pendant 20 ans, c'est relou. D'ailleurs, leur mère vient de quitter le navire familial avant de sombrer, et vous y êtes le seul capitaine, Cédric, un père qui préfère s'occuper de Manon et se prétendre immortel plutôt que d'accepter de regarder sa réalité en face. La réalisatrice a dédié son film à sa sœur, épuisée dans son vécu pour nous offrir une chronique familiale tout en pudeur, où se pose constamment la question du choix. Ceux d'Elisa, magnifique et charnelle Diane Rouxel, qui hésite entre sacrifier sa vie ou la vivre. Les choix d'une jeune fille de 17 ans. Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Capable de dire « on se marre bien, tu sais », comme « j'aimerais que les choses soient plus simples ». Un film dans lequel des choses aussi simples que manger, se baigner, danser et surtout écouter de la musique nous deviennent aussi étrangères que familières. Un film en équilibre où on a l'impression que tout peut basculer dans une prise de varap mal assurée, un lacet de route mal négocié ou dans un acte mal intentionné. Filmé en format 4 tiers, la réalisatrice nous maintient constamment en apnée, tout en nous laissant respirer dans les paysages grandioses du Vercors. Un film où la route est omniprésente, physiquement bien sûr, mais aussi spirituellement. Un film qui nous rappelle que si tu veux éviter les problèmes avec les gens de province, il ne faut pas t'amuser avec le prix de l'essence. Un film où l'on écoute Radiohead en conduisant. Et j'aime conduire en écoutant Radiohead, car mon joint de culasse défectueux fait sensiblement le même bruit que Thom Yorke quand il se met à brailler. Tout cela pour vous dire que le cinéma français, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, et parfois on a de la chance, on a du Cédric Kahn dedans.
Waouh, oh là là. Dites donc une réaction, Cédric Kahn. Merci, Thomas Croisière.
Je vous en prie.
Pour une fois que vous étiez à peu près sérieux.
Non, mais vous ratez toutes mes chroniques, vous ne les regardez même pas en replay, je sais.
Cédric.
Alors, bah, super, ouais, super. Je vais rien rajouter, j'inscrirai de
avec donc Diane Rouxel, Jeanne Coendi, Pablo Poli, Clémentine Allain et Agathe Drone. Marche ou crève, donc dans les salles, avec Cédric Kahn, bien sûr, film de Margot Bonhomme. Vous êtes sur France Inter. Ça vous paraît étrange?
Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ça va être bientôt à vous, Guillaume Meurice. Wow. En attendant, d'abord, Étienne Daho. Ah.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe l'étoile, les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Un fidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle. Invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perles silencieux, au fond de nous, l'étincelle, dans le cas orageux. les ombres se rallongent, les anges se morfondent, nos poignards étoilés dans ce théâtre d'ombre. Sur le pavé, les cœurs givrés.
Par Jupiter, vous êtes bien sur France Inter, la preuve, Étienne Dao.
Ah oui, là, oui.
Et c'est Cédric Ken qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission. Cédric Ken, je vous présente Guillaume Meurice.
Oui, enchanté. Eh ben, enchanté de même, on va parler attentats aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça met toujours une bonne ambiance, hein, c'est toujours sympa avant les fêtes. Alors du côté des mauvaises nouvelles, ben, on n'a toujours pas arrêté le mec qui a tiré. Et deuxième mauvaise nouvelle, le gars qui est censé l'arrêter, c'est toujours Christophe Castaner. Voilà, donc on n'est pas bien, bien, bien. Du côté des choses qui rassurent suite à l'attentat, Anne Hidalgo a éteint la tour Eiffel. Vous vous êtes foutu de sa gueule allègrement tout à l'heure, Alex, c'est pas bien. Parce que si Daesh avait prévu de faire des photos sur le Champ de Mars ce week-end, et ben voilà, ils sont bien niqués. Hein, ils doivent aller devant Notre-Dame, et ça, en tant qu'islamiste, ils doivent bien avoir le seum. Et ça, ça vous connaît le seum, Alex. Mais dans la population française, comment on réagit, hein, c'est ça qui m'intéresse. Alors, je suis allé voir les gens ce matin, avec encore et toujours cette question des fichiers S qui ressort.
Les renvoyer dans leur pays d'origine.
Ah, dans leur pays d'origine ?
Ah oui, carrément. Je n'en veux plus en France.
Mais alors, par exemple, celui de Strasbourg, il est français.
Ben oui, il n'y a qu'à pondre une loi comme quoi ils ne seront plus français et les renvoyer dans leur pays d'origine.
Son pays d'origine, c'est la France ?
Non. Non. Je suis désolée. Ça se voit.
Ça se voit. Oui, d'accord. Je crois que je vois. Alors, d'accord. Oui, faire référence. On fait ça au faciès. Alors, faites gaffe, du coup, si vous prenez des vacances au soleil, hein, vérifiez de ne pas être fiché S avant. Si Julien Coupa, il va à Saint-Tropez, il va se retrouver à Kaboul plus vite que prévu. Alors, ça, c'est pour les gens, on voit bien. Hein, mais alors, pour les gens, ça se voit pas bien, on fait quoi ?
Un Français français, il va en prison ou je sais pas.
C'est quoi la différence entre un Français français et un Français pas français ?
Ah, vous le savez très bien.
Non, mais non.
Bah si vous êtes né en Tunisie, vous n'êtes pas Français français.
Mais alors lui, il était né à Strasbourg.
Oui, bon, enfin moi je suis pas d'accord sur tout ça.
Non, c'est vrai, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il soit né à Strasbourg. Je suis d'accord pour qu'il soit né à Damas, que son père ce soit Ben Laden, sa mère la sorcière de Blanche-Neige, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est mal foutu. Alors passons à une autre dame. Je lui ai rappelé quand même qu'il était donc français. Hein.
Oui, mais je sais. Oui, mais c'est il y a trois générations. Vous n'allez pas me dire que si on avait su intégrer comme il faut, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu 68.
Ah, alors voilà enfin une analyse qui change un petit peu. C'est de la faute de 68. Et alors, quel est le rôle exactement de Daniel Cohn-Bendit dans le djihad ? J'avoue que ça se complique un tout petit peu, mais ça a le mérite d'être ambitieux. Alors attention, toutes les chienlits ne se valent pas. Mai 68, c'est le début de la décadence, d'accord. Mais les gilets jaunes, pour cette même dame, c'est bien.
Le fond des gilets jaunes, c'est pas ça. Dans ma tête, je les justifie. Mais là, par exemple, effectivement, il vaudrait mieux qu'ils s'abstiennent là avec ce qu'il y a, parce qu'il y a sûrement des Arabes qui peuvent en profiter de ça.
Alors attention, parce que les Arabes, dès qu'ils peuvent profiter d'un truc, hein, tu vas voir qu'ils vont grand remplacer les gilets jaunes plus vite que prévu. Ils sont capables. Alors bon, là, on était dans le camp des modérés. Hein, j'appellerais ça les Français modérés. Mais j'ai rencontré des gens ce matin un poil plus déterminés que faire des fichiers S pour ce monsieur.
Eh ben, je vais vous expliquer. Il faut rouvrir les camps, là, les chambres à gaz, et les mettre dedans.
Ah oui, quand même, ouais.
Ah oui, vous pouvez y aller.
Des camps de fichiers S.
Oui, les camps.
Voilà, c'est une proposition, moi. Après, on n'est pas là pour juger, hein. Proposition, devenir une sorte de nazi de fichiers S. Ça devient un peu complexe, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas flippant. Alors, on reste dans le domaine des trucs cool. Proposition citoyenne, je dirais. Alors, continuons dans ce qu'on peut appeler les bonnes propositions.
Moi, je dis, il n'y a plus qu'une guerre qui pourrait résoudre le bazar qu'il y a.
Ah ouais, à ce point-là ?
Bah ouais. Napoléon, nettoyage. Là, il faut trouver une solution comme ça, ouais. À mon avis. Hein.
Ah ouais, la solution, c'est radical, quoi. C'est qu'une guerre. C'est,
ouais, je suis méchant, mais...
Je suis un peu méchant, mais c'est vrai qu'un nettoyage à la Napoléon, ça se tente. On n'est pas là pour juger, hein. Je vous rappelle, on est là pour étudier les situations et les propositions qui viennent du terrain. Alors, pour l'instant, on se fait quand même bien tirer dessus à l'arme de guerre par des tarés. Enfin, des tarés.
Ouais. Ça me paraît bizarre, quand même. Et puis le détail gênant dans cette histoire, c'est qu'il retrouve pas ce lascar là.
Mais alors selon vous, ça serait quoi alors ?
C'est faux, c'est monté. C'est un truc qui a été monté.
Mais par qui ?
Je sais pas, il y a tellement de choses qui se passent sans qu'on le sache.
Ah oui, oui, c'est pour ça qu'il faut s'empresser de combler les choses qu'on ne sait pas par des conneries. Alors, Silour, bon, comment faire face aux attentats ? Bon, moi, perso, j'ai pas la réponse, à part continuer à vivre comme avant, profiter des plaisirs de la vie. Voilà, dites à des Belges qu'on est champion du monde de foot. À chaque fois que vous en croisez un, ça fait plaisir. Allez boire des coups dans les cafés, descendez dans les rues ou sur les ronds-points pour gueuler si vous n'êtes pas content. Bref, continuez d'être français.
Merci Guillaume Meurice. 17h42 sur France Inter. Ça s'arrange pas les gens que vous croisez. Hein. Ça
s'arrange non, pas ils du ont tout. Des propositions. Ils sont créatifs. Même de on ne peut pas leur reprocher.
Ouais, bien sûr, bien sûr. 17h43 dans le massif du Vercors qui sert de décor au film dans lequel joue Cédric Kahn, Marche ou Crève. Eh bien, avant d'écouter Clara Dupont-Monod, puisque nous sommes jeudi pour son conseil littéraire, jadis les mouvements populaires étaient épaulés par des intellectuels. Aujourd'hui, où sont-ils ? Eh bien, ils sont dans les pages débats, opinions, idées des grands journaux, mais pas sur CNews ou BFM. C'est pourquoi les Gilets jaunes avouent ne pas les connaître, à part peut-être Finkielkraut, disent-ils, mais dont le pessimisme n'est pas très mobilisateur. Un article de Slate.fr pose cette question. Peut-on savoir ce dont ont besoin les classes populaires sans vivre leurs conditions ? Bien sûr, nous avons tenté de répondre.
Ça sent bizarre ce que t'as fait, là.
Oh là 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 là, ah bah là c'est
brûlé
là, alors là.
Toi tu peux pas baisser le feu non, hein? On t'apprend pas ça en psychosociaux?
Bah non forcément, hein, vous les intellos, Freud et compagnie, ça se passe là-haut, alors baisser le feu c'est trop compliqué. Ah bah voilà, voilà, la daube est brûlée, merci Freud.
Valérie Bonneton, non fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Alors c'est un sujet qui est pas évident, on va s'y attaquer. Est-ce que les mouvements populaires ont besoin des intellectuels pour porter leur voix?
Traditionnellement, oui. Ouais. Enfin, il y a toujours eu des leaders, mais là, justement, on a l'impression que c'est un mouvement qui n'aime pas les leaders.
Ouais, et puis il respecte pas tellement. Il y a pas de respect de figure. Il y a pas de. On refuse le politique, les corps intermédiaires, etc. Et les intellectuels aussi considérés comme l'élite. Mais il y a une raison sans doute à ça.
Il y a une vraie défiance à la démocratie représentative, en fait. Mmh. Il y a une crise de la représentation, en fait.
Ce qui est dommage concernant les intellectuels, parce que personne n'a mieux parlé du peuple que Victor Hugo, et pourtant il n'y en était pas issu, hein. Donc c'est la mise en mots à un moment d'une situation, elle peut être faite assez brillamment et justement par quelqu'un qui a l'habitude des mots sans qu'il soit forcément issu de la situation qu'il décrit.
Bah, Clara Dupont-Monod.
Alors les gilets jaunes et même les sociologues disent ce sont en ce moment ce que disent les intellectuels, ce ne sont pas des pensées qui mobilisent. Est-ce que vous dans votre parcours, il y a eu peut-être des penseurs ou peut-être des films ou des livres qui vous ont qui auraient pu vous mobiliser, qui vous ont titillé, qui vous ont peut-être engagé dans un combat ou une réflexion?
Non, mais moi j'étais adolescent, enfin jeune adulte dans les années 80, c'était déjà un peu la fin des illusions.
Ah oui, c'est des illusions perdues.
Mais c'est quoi un intellectuel ? Parce que c'est ça.
Ah oui, alors nous en tant que Belges, c'est vrai que c'est une notion très française. Ouais. Quelqu'un qui conceptualise peut-être les choses, je sais pas.
Surtout, on disait toujours que les leaders dans les révolutions, c'était des bourgeois en fait, entraînés derrière eux le peuple.
Ouais. En fait, c'est la question de l'expertise. Est-ce qu'on peut parler bien d'une chose et la saisir correctement sans forcément avoir partagé l'expérience de cette chose ? Et la question vaut aussi, par exemple, pour les. C'est vraiment ouvert comme question, hein, mais pour les ministres, est-ce qu'il faut avoir opéré pour être forcément ministre de la Santé ? J'ai pas la réponse, hein. Mais la question se pose aussi à chaque fois, c'est l'idée d'expertise, quoi. Est-ce qu'on peut être ministre de la Culture sans avoir forcément écrit un livre ?
Est-ce que Roselyne Bachelot était au sport ?
Mais Cédric Kahn, par exemple, vous, on essaye de répondre à la question de Slade, donc peut-on savoir ce dont ont besoin les classes populaires sans vivre leurs conditions ? Vous, par exemple, vous êtes issu de la classe moyenne. Donc la classe moyenne, c'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut basculer un peu d'un côté ou de l'autre.
En tout cas, l'inverse, c'est pas vrai, hein. C'est pas parce qu'on a vécu les choses et qu'on est issu de la classe populaire qu'on a forcément raison et qu'on a forcément la bonne expertise. Donc, en tout cas, c'est ça le défi qui est aux hommes politiques. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de les discréditer sur cette question-là. On leur dit, vous pouvez pas partager nos problèmes.
Mmh. Et vous, donc, le fait que
en
vous
tant
soyez...
que classe moyenne,
ouais,
en tant que
classe moyenne, comment est-ce que... Parce qu'il y a un effet de bascule, on peut très bien prendre le parti... des plus faibles, comme on peut prendre le parti des plus forts quand on est un peu...
Moi, je comprends la haine de classe. Hein. Je comprends que de voir des gens qui ont tout et qui en plus ont la parole et le discours et les micros ouverts et tout ça, je comprends que ça puisse déclencher une haine de classe.
Mm-hmm. Bah, manquerait plus que Luc Ferry ou BHL prennent la... Vous voyez,
c'est... Je
comprends qu'il n'ait pas envie des deux côtés de fusionner.
C'est des intellectuels, alors.
Mais c'est ce que je crois que c'était.
La vraie question, c'est la question de la transformation. C'est-à-dire que il suffit pas d'éprouver une situation pour la résoudre. Oui, en fait, il faut quand même y réfléchir. Oui. Et moi, je suis grand défenseur de la démocratie représentative. Mm-hmm.
C'est ce qu'essaye de faire Raphaël Glucksmann avec Place Publique. Et l'article de Slate note que sur les 15 000 membres qui sont déjà membres de Place Publique avec Raphaël Glucksmann, il y a 31% qui habitent l'Île-de-France. Et on évoquait hier le fait que La République en Marche était un mouvement qui avait été essentiellement financé par Paris et la région parisienne. Ben ici, c'est dans les mêmes proportions que La République en Marche. Donc finalement, la connexion, elle a un peu du mal à se faire, en tout cas hors de Paris et de la région parisienne pour l'instant. Voilà. 17h48 sur France Inter. On a résolu
les problèmes. Vous êtes une intellectuelle.
C'est Clara Dupont-Mono l'intello.
Non, mais c'est pas ça, parce que justement, ils sont trop discrédités en ce moment. Alors, merci.
Vous n'avez pas dit que c'était parce que vous n'aviez pas les capacités. Je note.
Non. Mais bon, l'actualité, en tout cas, l'actualité est plus importante que l'intellect, finalement, puisque c'est aussi Carlos Ghosn qui a été à nouveau inculpé à Tokyo pour crimes financiers. Donc, il pourrait passer Noël en prison. Et il y a un moment, quand même, où il faut se rendre à l'évidence, c'est que Carlos Ghosn, quoi qu'on en pense, hein, il ferait quand même un sublime personnage de roman. De film aussi, d'ailleurs, Cédric Kahn, mais aussi, surtout, de roman. Et en plus, je vous rappelle qu'il a été exécuté par son dauphin, son homme de confiance, donc c'est César poignardé par Brutus, c'est quand même un roman. Et alors, bizarrement, le magnifique thème, pour résumer, littéraire qui se trouve là, il s'appelle la plantade. C'est-à-dire que c'est le crash, c'est la foirade, c'est la route qui mène du roi du monde vers le détenu, c'est la route en pente vers le bas, celle du paradis vers l'enfer. C'est ça finalement le thème littéraire que nous raconte Carlos Ghosn. Alors étrangement, ce thème littéraire de la chute n'est pas, comme on pourrait le croire, une spécialité française. C'est-à-dire que notre littérature préfère raconter l'ascension plutôt que la plantade. Regardez nos chefs-d'œuvre, ils racontent en fait quoi ? Ils racontent souvent un envol. C'est le fameux « À nous deux Paris » de Rastignac, de Balzac. C'est l'opportuniste Bellamy de Maupassant, qui est un employé de bureau qui termine au sommet de la pyramide. Et c'est l'ambitieux Julien Sorel, dans « Le rouge et le noir » de Stendhal, qui un jour se promène dans les montagnes. Il voit passer un épervier. Je cite « L'œil de Julien suivait l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force, il enviait cet isolement. » Et force et isolement, voilà bien les mots qui correspondaient à Carlos Ghosn au temps de son trône. Un chemin donc que la littérature française aime bien décrire. Et puis il se trouve que de l'autre côté de l'océan, la littérature américaine, elle fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'accession au trône, elle s'en fiche, et ce qu'elle aime, c'est raconter la couronne brisée, c'est raconter la déchéance. Le grand romancier américain de la chute, c'est Francis Scott Fitzgerald, avec notamment Gatsby le Magnifique, c'est Rastignac exactement à rebours, c'est l'épervier de Julien Sorel qui s'est pris un mur. Parce qu'au départ, Jay Gatsby, il dit dispose de quelques atouts que d'ailleurs partageaient Carlos Ghosn et accessoirement Guillaume Meurice, à savoir une grande fortune, mais il a aussi, pour un représentant du peuple, mais il a aussi, je cite, la colossale vigueur de son aptitude à rêver. C'est beau comme formule. Et ben résultat, c'est beau mais pas très enrichissant, puisque résultat, le déclin s'amorce. L'avenir apparaît aussi étroit qu'une cellule de prison japonaise, comme dans les textes assez crépusculaires de Raymond Carver par exemple, ou Richard Yates. Donc si on résume, la littérature américaine, elle préfère traiter de la débâcle, tandis que la française, elle préfère l'essor. Donc évidemment, on se dit, ah bah les Français, ils ont le moral, et les Américains, ils tirent un peu la gueule. Parce qu'on se dit, ah bah un peuple à la banane et l'autre fait grise mine. Et en réalité, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que la littérature, bien souvent, elle prend le contre-pied du réel. Elle s'offre même comme un contre-pouvoir au réel, elle en offre l'envers. Et en France, pays où l'ascenseur social est bloqué, comme par hasard, on raconte des histoires d'ascension. C'est-à-dire que les romans offrent une illusion. Et aux États-Unis, pays du fameux rêve américain, on raconte, comme par hasard, des histoires de revers du rêve américain. Et ces romans offrent une dissidence envers l'illusion. En gros, c'est puisqu'en France, la réussite est si difficile, eh bien j'en dessinerai une, semble dire la littérature française, puisqu'en Amérique, il paraît que la réussite est si facile, eh bien j'en dessinerai la face noire, semble dire la littérature américaine. C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ? Demande fébrile Stendhal à propos de Julien Sorel. Il venait à jamais de perdre son ancien monde de lumière, tranche Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. Deux phrases qui tracent en creux le portrait d'une société dans la mesure où elles dessinent une histoire que leur pays ne leur livre pas.
Clara Dupont-Monod, merci.
C'était une démonstration sans référence de lecture à la fin, sauf celle que j'ai citée, mais qu'on retrouve
bien sûr
sur le site.
Ah bah avec joie. Avec joie. Merci beaucoup.
Ça veut dire que vous n'avez pas compris.
C'était brillant.
Clara Dupont-Monod, nous sommes en compagnie de Cédric Kahn et on va aborder ce dernier sujet cinéma, car Dipane, le film de Jacques Audiard, Palme d'Or à Cannes, a récemment été diffusé à la télévision. Deux comédiens non professionnels incarnent des réfugiés sri-lankais dans ce film, et à l'occasion de ce passage télé, une question est réapparue dans la presse. Pourquoi les réalisateurs font appel à des acteurs non professionnels? Je sais pas, pour avoir vraiment l'impression de bosser des fois peut-être.
Non mais là on va arrêter là, d'accord? Même si c'est l'heure du déjeuner, là ça va pas du tout. Hein, t'es d'accord? Là tu me coupes l'appétit quoi. Le regard est vide, il se passe rien. C'est vide intérieurement, extérieurement, j'en parle même pas. On s'ennuie là, hein, d'accord? Pour pas dire autre chose. C'est quand même dingue, c'est quand même pas compliqué. Elle est bien gaulée, elle le sait, elle couche pour réussir. C'est quand même pas... Si? C'est pas très loin de toi.
C'est Stéphanie Bataille dans 10%, la série dans laquelle vous avez joué votre propre rôle dans la dernière saison actuelle, la saison 3, le fameux épisode avec Isabelle Huppert, qui ne sait pas qu'elle fait 3 tournages en même temps que le vôtre. On vous recommande beaucoup, Cédric Kahn. Vous, quand vous avez commencé à vos premiers films, vous avez fait appel à des comédiens non professionnels, non?
Ouais, ouais, même encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui.
Mais moi aussi, je suis une sorte de comédien non professionnel.
Ah bon?
Bah oui.
Ouais, parce que vous avez appris sur... Alors qu'est-ce que c'est?
C'est pas mon métier, j'ai pas de formation comme acteur, donc les gens finalement quand ils m'appellent... C'est...
Mais le cinéma, c'est votre passion depuis très très longtemps, on a dit tout à l'heure.
Ah bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est le peuple qu'on a l'expertise, c'est pas parce qu'on aime le cinéma qu'on est bon.
Mais ça vous a pas fait bizarre de vous retrouver de l'autre côté, du coup? Vous aviez pas un regard un peu acéré sur la réalisatrice, que c'est votre métier?
Ah mais là, c'est pas la première fois, ça fait déjà 4-5 ans que je joue, que je m'égare dans quelques films, mais est-ce que ça m'a fait bizarre? Non, bah je me laisse faire. En fait, je le prends plus comme une opportunité, une chance d'expérimenter quelque chose.
D'où la fameuse mise en abîme dans 10%, puisque vous êtes acteur, réalisateur, et vous l'êtes dans 10%.
Oui, mais ça, c'est le principe de la série, qui est une série de guests.
Il y avait eu un peu le débat à l'époque, quand Pascal Duquesne avait reçu... un comédien belge handicapé qui avait reçu le prix d'interprétation à Cannes, c'était les comédiens disaient mais il ne joue pas, c'est pas son métier, il est.
Il y avait alors que sur Reponette, la petite du film de Jacques Doyon qui avait 4 ans, qui avait eu un prix d'interprétation à Venise, je crois. Enfin, mais ça raconte juste que acteur au théâtre, c'est quelque chose. Il faut apprendre un texte, il faut jouer, rejouer plusieurs fois, être devant une salle. Acteur au cinéma, c'est vrai que bon, il y a des rôles très difficiles qui nécessitent le métier, l'expérience d'acteur, mais il y a aussi des rôles, voilà, qui nécessitent juste de l'incarnation, et même l'incarnation est supérieure au jeu.
Et c'est même presque troublant quand ils disparaissent dans l'oubli, parce qu'il y avait ce film brésilien qui s'appelle La Cité de Dieu en 2002, c'était que des acteurs de la rue, et film magnifique, devenu culte, et on a perdu leurs traces, on sait pas, on les a vus le temps d'un film et hop, ça disparaît.
Bah, c'est le destin des non-professionnels, à quelques exceptions près. Alors, on peut dire aussi qu'à partir du moment où quelqu'un est filmé, qui joue, il est un acteur. Hein. Toute cette frontière-là, finalement, cette définition du non-professionnel, elle est très...
Il y a un bizutage ou pas? Le prévu?
Pour les jeunes, ouais. Ou pour un vieux qui arrive comme moi, sûrement quand ils sont en face d'une star. Mais je sais par exemple que les acteurs très connus sont toujours déstabilisés d'être en face d'un amateur ou d'un enfant ou d'un adolescent, hein, parce qu'ils se disent il va être vrai, il va être plus vrai que moi. Donc...
Cédric, ça vous ennuie pas de jouer avec des amateurs?
Je suis amateur.
Excusez-moi. Ben, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité.
J'ai pas mes lunettes.
Je vais vous laisser
une excuse en or.
De les sortir. Je vous donne le thème pendant que vous allez chercher les lunettes. Samedi, BFM va donc mettre en place un dispositif une fois de plus pour faire une grosse audience et pour suivre les gilets jaunes. Vous trouvez les lunettes ou pas? Il faut donc un réalisateur de génie. Vous êtes engagé par BFM pour réaliser. Charline est votre assistante. Comment ça va se passer ce samedi?
Donc moi je dis ce que...
Ouais.
Alors bon, la chaîne nous a demandé de l'action cette semaine. Ils étaient vraiment déçus de l'épisode de samedi dernier. Hein.
L'épisode?
Oui, enfin, la journée de mobilisation, quoi.
Mais pourtant, on a mis le paquet, la ville barricadée, les blindés, la gendarmerie.
Pas assez de combats de casse, quoi. Les gens veulent de la violence, voilà.
Les gens,
c'est quoi? Oui, mais les patrons de BFM veulent de la violence, voilà.
Ok, allez, c'est parti.
Oui, alors Guillaume, notre envoyé spécial sur les Champs-Élysées.
Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas?
Oui, bah écoutez, pas beaucoup d'action hein, ici.
Mais si, si, regarde au fond, là, il y a un type qui vient de jeter sa cigarette par terre, là.
Ah génial, zoom, zoom, zoom.
Oui.
Oui. Ah bah zoom juste, voilà.
Ah pardon, pardon. Mais moi, il faut dire le texte.
Mais oui. Vite, 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 des bandeaux.
Fonce, interroge-le, demande-lui d'où vient sa colère contre Macron et qu'est-ce qu'il pense de l'islam.
D'accord, d'accord. Alors monsieur, vous êtes en direct sur BFM TV. Pourquoi vous avez jeté comme ça votre cigarette sur le sol?
Bah, j'avais fini mon clope et...
Ouais, et donc vous faites partie des Black Blocs, c'est un acte isolé? Comment ça se passe?
Il va foutre le feu, il a un briquet dans la main.
Vite, des bandeaux.
Demande-lui, je tourne la page, demande-lui d'allumer son briquet et zoom sur la flamme.
Alors, vous comptez donc allumer des barricades avec votre briquet, c'est ça?
Non, je vais allumer mon clope suivant.
Donc, on peut considérer que vous vous radicalisez?
Oh, il est nul.
On s'en fout. Bon, allez, on va à Strasbourg.
Oui, je suis devant le commissariat de police et il se passe pas grand-chose. Hein.
Ah, si, il y a deux policiers qui viennent de sortir du commissariat, là, quand même.
Bon, super, on les suit, on se met sur Breaking News.
Ouais, ben, bandeau.
Ouais, ben, nous sommes en train de suivre les policiers qui sont sur une piste, je crois.
Ajoute l'image, là, une photo de shérif chez 4.
Ouais, ils rentrent dans un bureau de tabac. Hein.
Allez, fonce dans le tabac, on tient quelque chose.
Vite, bandeau, des bandeaux.
Oui, je suis avec eux, alors vous êtes... est-ce que vous avez trouvé shérif chez 4?
Non, nous on est en pause, on est venu acheter des clopes.
Oh là là, mais ça va pas du tout là, allez, on retourne à Paris. Hein.
Alors Guillaume, sur les champs, est-ce qu'il y a de la casse?
Non, c'est calme en fait, toujours très calme ici. Hein.
Bon, mais pourtant on voit de la fumée derrière toi.
Ah oui, ça c'est un manifestant contre le réchauffement climatique qui chauffe des merguez.
Ouais, génial, ouais. Génial. Eh, fous-lui un gilet jaune, puis tu fais un travelling avant sur la fumée, ok?
Mais on mettrait pas plutôt des...
Bandeau. Merci, pardon. Cédric Kahn était avec nous. Merci Cédric Kahn d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci.
Et on
vous
recommande donc ce film qui s'intitule Marche ou crève, film de Margot Bonhomme qui est en salle, que vous pouvez aller voir. Merci Cédric Kahn. C'est la fin de cette émission. On laisse le mot à des enfants, pas tellement dans l'apaisement. Hein.